Selon la règle du séminaire, j'ai mis un texte en ligne que vous avez peut-être pour certains d'entre vous vu sur le site du public au commun. Comme on discute toujours des textes avant, j'avais composé le texte de la manière suivante. J'avais articulé le texte sur trois problèmes qui sont des problèmes sur lesquels moi je m'arrache un peu les cheveux et j'ai pas de réponse spécifique, mais il était intéressant pour moi de les poser ici au séminaire. Et puis j'avais fait un long post-scriptum qui n'était pas directement problématique et qui était un peu une prolongation de ce qu'avait fait Pierre Dardot pendant la première séance. Et je pensais ne pas en parler puisque je pensais que c'était un peu répétitif. Puis en discutant avec les uns et avec les autres, on m'a dit que finalement ça serait pas si mal que je prenne un morceau du post-scriptum aussi. Donc je vais commencer par le post-scriptum, ce qui fait une chose un peu bizarre. Je vais commencer par la fin. Mais comme disait Deleuze, il faut toujours prendre les choses par le milieu. Donc encore heureux que je ne commence pas de manière aléatoire. Et le point de départ du fameux post-scriptum en question, il est finalement assez banal. Il est de se demander dans quel registre de langue aujourd'hui, indépendamment d'une réflexion philosophique ou politique, on utilise le mot commun. Et c'est vrai que ce qui était extrêmement étrange, c'est que quand on y pense, le mot commun, au pluriel, les communs, ça désigne dans l'espace d'une maison, dans l'espace domestique, l'espace de la servitude et des services, c'est-à-dire les cuisines, la buanderie, les sanitaires, les couloirs, là où finalement la domesticité gère tout ce qui rend possible, donc tout ce qui est condition de possibilité de l'espace social, de l'espace de la représentation sociale, qui sont au contraire les salons, etc., etc. Et finalement, c'est assez étonnant de penser que le commun, c'est à la fois ce qui n'a aucune rareté, ce qui ne suscite pas de désir parce que il n'y a pas de mystère, ce qui est répandu à tel point que finalement on le caractérise presque comme une sorte de réalité ayant un trop-plein d'existence, disponible toujours. Et puis cette caractéristique de l'espace voilé aux yeux des hommes qui permet l'espace de la représentation sociale dans une maison. On ne voit pas les cuisines dans une maison de la bonne bourgeoisie, on ne voit pas les sanitaires, et finalement la seule manière dont cet espace est présent dans la vie sociale, c'est lorsque la domesticité arrive, c'est-à-dire quitte l'espace des communs pour rentrer dans l'espace social, pour servir par exemple, et puis rentre à nouveau dans l'ombre. Alors j'avais pensé parler de ça, de cette condition de possibilité des pièces de la représentation dans l'espace de l'économie domestique, parce que finalement quand on y pense, c'est symétriquement la même structure, l'invisibilité qui rend possible la visibilité sociale, ou l'invisibilité des communs qui rend la visibilité sociale, c'est exactement la même structure que la conception philosophique et métaphysique de ce que c'est que le commun. Si vous y pensez, dans toute la pensée philosophique occidentale en tout cas, le commun c'est très souvent, dans la plupart des cas, ce qui fonde la possibilité de la communauté. C'est-à-dire ce que nous avons tous ensemble, en commun, et sur la reconnaissance de quoi, ce que nous avons tous en commun, sur la reconnaissance de quoi se fonde la possibilité que nous puissions nous reconnaître, et que nous, étant reconnus, nous puissions construire quelque chose ensemble. Le commun comme fondement, le commun comme sous-sol, le commun comme prédisposition, le commun comme condition de possibilité de la politique, on a là encore quelque chose qui est de l'ordre du dévoilé, du caché, qui rendrait possible ce qu'au contraire on voit et qui est accessible par le regard et qui est l'espace de la police, c'est-à-dire l'espace de la cité, l'espace du politique. Dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on partage et ce qu'on voit est assis sur le commun. Mais il est assis sur le commun simplement parce que le commun est dissimulé. Et la question que moi j'avais envie de poser, c'est que quand on retourne la définition du commun et qu'on fait du commun, ce qui est un peu le point commun des gens qui participent à ce séminaire, c'est qu'on fait du commun non pas une assise ou un fondement, mais une production, c'est-à-dire qu'on le rend précisément visible. Quand on renverse cette structure-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire rendre visible le commun? C'est-à-dire l'enlever de son statut de fondation dissimulée ou de condition de possibilité et en faire un résultat. Voilà. C'est à la fois une question extrêmement banale, et en même temps, je pense que c'est une question qui innerve entièrement la réflexion qu'on a tous sur le commun, parce que ce retournement de structure, qui est un retournement de structure de pensée, qui en réalité, là aussi c'est un problème qui intéresse simplement les gens qui s'occupent de l'histoire de la pensée, mais c'est un vrai problème. Ça intéresse l'histoire de la pensée politique moderne, bien entendu, mais ça intéresse plus généralement l'histoire de la pensée politique occidentale depuis sa fondation, depuis sa fondation grecque. Et je pense que c'est un gros enjeu. Alors, ça, c'était le premier point que je voulais poser. Le deuxième point, mais j'y passe très rapidement, c'est que lorsqu'on cherche à restituer au commun cette visibilité ou cette immanence qui lui a été ôtée, précisément parce qu'il était un fondement, lorsqu'on dit que le commun, c'est ce qui est là, et non pas ce qui rend possible, c'est-à-dire ce qu'on produit ensemble, le danger, c'est de se contenter de discours qui n'affrontent qu'un aspect de la question, c'est-à-dire le problème de la gestion de ce commun. Comme si, finalement, la réinsertion, la réintroduction du commun dans le champ de la visibilité ne déterminait qu'une interrogation en termes d'administration. Et finalement, la confusion, la superposition, historiquement, de la catégorie de public et de la catégorie de commun, à travailler sur cette idée de la gestion. Qu'est-ce qui légitime le public, sinon l'idée que le public, c'est la gestion du commun contre une appropriation privée. Le couple gestion-propriété, c'est-à-dire le couple public-privé, a cherché à cacher la symétrie qu'il y avait entre appropriation étatique et appropriation privée, précisément parce qu'on déléguait à l'État non pas une propriété, mais une gestion. Ou une administration. Alors, ça c'était le fond à partir duquel je voulais parler, et j'en arrive aux trois, comme on a un temps très court, aux trois problèmes que je voulais vous soumettre. Il me semble qu'il y a dans le tournant qu'on affronte aujourd'hui, et qui est un tournant beaucoup plus large que la simple question du commun, et qui est la nécessité, pour des raisons qui sont à la fois des raisons historiques et de transformation profonde du monde dans lequel on vit, historiquement, socialement, démographiquement, intellectuellement, socialement, etc., linguistiquement, affectivement, et j'en passe et des meilleurs, il y a la nécessité d'une réinvention ou d'un réinvestissement radical des catégories de la pensée politique dont on a hérité et qui n'est pas neuve puisqu'elle a trois siècles, et que cette redéfinition, qui est une redéfinition conceptuelle mais qui n'est pas simplement un exercice intellectuel de torture de méninges désœuvrés, mais qui est simplement l'idée qu'il faut des instruments pour penser le réel à la hauteur de ce qu'il est devenu, c'est-à-dire différent. Que cette nécessité-là, elle nous met devant des problèmes qui sont des problèmes nouveaux. Et que la série de problèmes que j'essaie de vous énoncer, on l'a déjà, il me semble, rencontré sans la prendre au sérieux, à l'occasion d'une autre redéfinition de catégorie qui n'était pas celle de commun, mais qui était, il y a quelques années, celle de la multitude, et que le commun pose aujourd'hui, en tout cas moi me pose, les mêmes problèmes que la conception ou la notion de multitude me posait il y a quelques années. Alors non pas la notion de multitude en elle-même, parce qu'elle a une histoire et qu'elle est vieille comme le monde, pas tout à fait mais presque, mais l'usage politique qu'on a fait du concept de multitude dans les 10 dernières années. Alors première difficulté, qu'à mon avis la multitude et le commun honte en commun, sans vouloir faire de jeu de mots. Le fait que le concept de multitude du côté des subjectivités et celui de commun du côté de ce que construisent ensemble ces subjectivités, composées elles-mêmes en multitude, donc du côté du multitude et du côté du commun, le fait que, et dans la multitude et dans le commun, les différences, les singularités qui composent la multitude, qui s'agencent dans la multitude, ou qui construisent le commun, qui produisent le commun, qui constituent le commun, ne sont pas effacées, mais demeurent. Ce qui pose un problème, qui est un problème à la fois très, très, très profondément logique. Comment est-ce qu'on fait pour composer un ensemble dont les éléments affirment leur permanence et non pas leur disparition ? Alors, c'est un problème logique, mais c'est aussi, bien entendu, un problème politique. Il y a plusieurs manières d'envisager ce que c'est qu'une multitude, exactement comme il y a plusieurs manières d'envisager ce que c'est qu'un commun. Il y a ce que, bien entendu, ça ne peut pas être, le commun ne peut pas être, comme la multitude ne peut pas être, une addition d'éléments singuliers. La multitude, ça n'est pas une main levée, plus une main levée, plus une main levée, plus une main levée à l'infini. Je dis ça parce que dans des versions naïves, bien entendu, ingénues, simplificatrices, mais extrêmement présentes, en particulier chez les représentants de la politique institutionnelle, de la politique des partis, par exemple, c'est-à-dire dans des versions extrêmement simplistes du retour à la participation politique par le bas, etc., etc. Je ne cite pas de nom, mais vous voyez où je veux arriver, y compris en France. La définition additionnelle ou additive de la multitude et ou du commun, c'est-à-dire de la communauté politique, est extrêmement présente. Réunissons-nous tous et votons à main levée. En gros, c'est ça, de version simplificatrice. Alors, bien entendu, ça ne peut pas être ça. Mais du coup, dire ça ne peut pas être ça, ça n'est pas non plus nourrir ou confirmer l'autre définition que la pensée politique moderne a donnée de la composition des singularités en un ensemble, et qui était une définition, pardon, plus additionnelle ou additive, mais intégrative. Parce que la définition intégrative, c'est la multitude, le peuple, aurait dit la théorie philosophique moderne, et non pas la multitude, c'est pas l'addition, mais c'est l'intégration des singularités dans quelque chose qui est à la fois le produit de leur union et plus que leur simple addition. Il suffit de relire Rousseau et de relire un texte sur la volonté générale pour avoir exactement le modèle. La volonté générale n'existe pas sans les citoyens qui rentrent à l'intérieur du contrat, mais la volonté générale est autre chose que l'addition des citoyens les uns et les autres. La volonté générale est une dimension qui n'est pas réductible à l'ensemble même des citoyens, ce qui est le problème du détachement de la figure de la décision politique, parce que, bien entendu, la volonté générale ne peut pas fonctionner sans son pendant organisationnel, et ce pendant organisationnel, c'est la théorie de la représentation politique. Qui dit volonté générale, définition intégrative, dit théorie de la représentation politique. Or, nous sommes précisément à un moment, de manière très concrète aujourd'hui, dans les pays de démocratie avancée, puisque c'est comme ça qu'on le dit, où la crise de la représentation politique est évidente. Et quand je dis crise de la représentation politique, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose en soi, ça ne veut pas dire que la démocratie a vécu, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de la démocratie, mais que cette organisation-là de la démocratie donne des signes qui sont des signes de fatigue. Et quand on me dit, mais pourquoi est-ce que vous dites ça, il suffit de dire que, alors là, la moyenne d'âge de l'Assemblée est plus proche de mon âge à moi que, en tout cas la moyenne, je veux dire ça, que de celle de mes étudiants, mais quand vous avez des étudiants qui sont nés en 85 ou en 88, c'est des étudiants qui ont voté pour la première fois en 2002. Donc c'est des étudiants pour lesquels le vote en France, pays démocratique, suffrage universel, ça veut dire 82% à Jacques Chirac, vote de défense de démocratie, mais ça veut dire par exemple que la représentation politique arrive à des pourcentages qui sont des pourcentages qu'on aurait appelés en d'autres époques et en d'autres lieux des votes bulgares. Mais on pourrait multiplier des exemples. Ce que je veux dire par là, c'est que la crise de la démocratie, c'est pas seulement dans les pays où la démocratie est à risque. C'est un épuisement de la forme même du fonctionnement de ce type-là de démocratie, et non pas de la démocratie en général. Alors, du coup, le problème est suivant. Quelle est la manière dont les singularités produisent de la multitude tout en y permanent, tout en y restant des singularités ? Faire multitude, ça signifie à la fois construire une réalité subjective politique nouvelle, la multitude, et ne pas éliminer les singularités qui s'y agencent. Faire multitude, c'est penser à la fois la permanence des singularités en tant que singularités, des différences en tant que différences, et la multitude qu'elles composent, qu'elles agencent. On sort d'une logique, par exemple, du tout de la partie. Là où je dis qu'il y a un problème logique et qu'il faut redéfinir la pensée, c'est dans ce sens-là. Faire multitude, c'est un problème qui est à la fois logique et organisationnel, parce que ça pose immédiatement le problème du mode d'organisation qui permet de penser à la fois les singularités et ce qu'elles produisent. Étant donné que ce qu'elles produisent, c'est ce qui les excède et pourtant ne les efface pas. Et de la même manière, et c'est là que le parallélisme me semblait assez évident, je pense que le commun, s'il n'est pas pensé comme un a priori, comme une condition de possibilité de la communauté politique, ce par quoi je commençais tout à l'heure, mais comme le résultat de l'action composée, concertée, agencée des différences, c'est-à-dire vous, moi, etc., etc., le commun doit être à la fois autre chose que les différences qui construisent le commun, donc un surplus, et en même temps, même si le commun est une excédence par rapport aux différences qui le composent, le commun ne peut pas être un effacement de ces différences. Alors comment est-ce qu'on tient ensemble ces différences? Et on peut à la limite le décliner sur deux plans, on peut même dire s'il y a des expériences locales, ponctuelles, de construction de commun, souvent ce sont des dimensions qui sont des dimensions extrêmement restreintes, comment est-ce qu'on compose le commun du commun, le commun des communs, le commun général des communs locaux? On peut décliner ça comme une sorte de pyramide. Produire du commun, c'est construire sous la forme d'un excès, d'un surplus de réalité, quelque chose qui permette aux différences en tant que différences et à toutes les différences, quelles qu'elles soient, de s'y reconnaître comme une puissance constituante. C'est l'exact contraire d'une neutralisation des différences par construction de consensus politique, par exemple, ou de consensus social. C'est l'exact contraire d'une imposition purement quantitative, identificatrice de la diversité. Le commun comme construction de proportions, comme royaume des quotas, un peu à toi, un peu à lui, etc., etc. Que ces quotas soient définis par une discrimination positive ou négative, peu importe. Le commun, c'est pas le plus petit dénominateur commun entre les éléments, c'est le plus grand commun différentiel. Et par plus grand commun différentiel, j'essaie de dire, mais c'est extrêmement difficile à nommer puisqu'on n'a pas les mots pour, ce qui fait que ce que je produis augmente ma puissance en tant que singularité, comme ça augmente la puissance des autres. Et pourtant, moi et les autres, nous sommes des choses ou des éléments différents. Si on continue à raisonner en termes de propriété, le commun est ce qui appartient à tous, je pense qu'on risque tôt ou tard de retomber dans quelque chose qui transcende la diversité des intérêts. Et ça, c'est ce sur quoi se fonde exactement la genèse historique de l'État. La différence, la vôtre, la mienne, ce n'est pas celle de l'intérêt privé, le vôtre, le mien, en termes de propriété, c'est pas la spécificité d'un intérêt propriétaire, ça n'est pas la spécificité d'un usufruit, c'est-à-dire d'un intérêt qui serait lié à l'obtention d'un privilège, c'est la singularité d'un usage. Du coup, la question devient, comment est-ce que l'on construit du commun en agençant les infinies variations des usages possibles de ce que nous produisions ensemble. Et ça, c'est tout sauf un problème de composition d'intérêts propriétaires. C'est le déplacement sur un autre terrain. Alors, ça, c'était le premier point. Deuxième point plus rapide, c'est que ces singularités qui vous et me caractérisent, ces différences qui sont censées construire ensemble le commun, elles sont non pas des choses, non pas des états, état avec un petit e, stable, non pas des substances immobiles et non historiques, mais des devenirs dans l'histoire. Le commun comme production, s'il est composé par des singularités, par des différences, il est composé par des réalités qui sont des réalités mobiles, qui sont des réalités qui évoluent, qui sont changeantes, qui se fondent sur la transformation, sur la métamorphose, sur la redéfinition, sur le déplacement physique mais aussi métaphorique. C'est-à-dire que le commun est un devenir composé lui-même de devenir. Le commun est un mouvement composé de mouvements. Et donc il faut penser de manière mobile la composition de ce commun. Alors, bien entendu, ça pose des problèmes, et ça pose des problèmes qui sont pas simples. Parce que si nous imaginons que le commun est ce que produisent ensemble les différences en tant que différences, mais qu'en même temps le commun n'est pas un objet, une chose, une configuration stable ou un système, précisément parce que ces différences sont mobiles, si nous pensons que le commun est le produit d'un mouvement constituant sans terme, si nous pensons que les formes du commun sont nécessairement historicisées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à une histoire précise, à un moment précis, à une détermination précise, mais on pourrait dire aussi à une géographie et à un espace précis. Ça veut dire que notre discours sur le commun ne peut pas être un discours général, un discours théorique, hors de toute histoire et de toute géographie, mais que le commun est toujours d'un certain lieu et d'un certain moment. Ça veut dire que si nous nous posons le problème du commun aujourd'hui, nous nous posons le problème du commun aujourd'hui en 2010, de là où nous parlons, c'est-à-dire à Paris, mais que le commun, et c'était un peu le sens de l'intérêt de faire parler Franck juste après, c'est que le commun tel qu'il est expérimenté, construit et tel qu'il se pose lui-même des problèmes en Bolivie depuis 2003, c'est pas nécessairement le même que celui dont je parle ici à Paris en 2010, pour ne pas parler d'autres situations. Le commun est ce que les hommes choisissent à un moment donné et en un lieu donné, en fonction d'une cartographie donnée des rapports de force, en fonction de lignes de tension, en fonction d'antagonismes possibles, en fonction de points de bascule possibles, de construire ensemble à partir de différences qui elles-mêmes sont le produit d'une configuration qui est une configuration spécifique. Le commun, sur la base de cette conscience du temps et du lieu, c'est-à-dire de la nécessité d'effectuer quelque chose de l'ordre de la généalogie, de la cartographie, est le produit d'une démarche qui est à la fois constituante, puisqu'on produit du commun, et stratégique, parce qu'on analyse les conditions de possibilité qui font qu'à un moment donné, dans un espace donné, il est possible de faire telle ou telle autre chose. C'est une conception qui est dynamique, et qui ne peut être politique que parce qu'on a reconnu qu'elle était dynamique, c'est-à-dire stratégique. Alors, question en vrac à partir de ce point. Qu'est-ce que serait ou qu'est-ce que peut être une gouvernance du commun dans ce contexte? Si on assume ce caractère dynamique en permanente redéfinition, première chose. Deuxième chose, peut-on envisager, alors on en parlera en avril, si mes souvenirs sont bons, qu'est-ce qu'un droit du commun à la hauteur de cette conception constituante du commun? On a parlé de pouvoir constituant, on définit le commun comme la production d'une puissance constituante qui serait celle de la multitude ou des différences agencées ensemble. La notion de pouvoir constituant en elle-même ne pose pas ou ne pose plus tant de problèmes, on l'utilise en tout cas de manière assez agile désormais, mais qu'est-ce que c'est qu'un droit constituant, un droit à la hauteur de ce pouvoir constituant? Est-ce que toute l'architecture du droit telle que nous la connaissons depuis le droit romain n'a pas besoin au contraire de poser des objets pour pouvoir poser son discours, c'est-à-dire paradoxalement de les fixer, de les immobiliser dans le temps pour pouvoir valoir pour tous et en tout lieu. Troisième point, et j'en termine, après la permanence des différences dans le commun, après la nécessité de leur historicisation, c'est-à-dire de leur traduction dynamique, stratégique et antagoniste, le problème de la compossibilité des différences ensemble, comme condition de la production du commun. Qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous assure, ou en tout cas, quelles sont les conditions pour que les différences soient possibles, compossibles, possibles ensemble? Qu'est-ce qui nous assure que, pour utiliser une terminologie qui est celle de Deleuze, mais qu'on peut très bien articuler ici, qu'est-ce qui m'assure que je vais avoir affaire à une construction de force, à une construction de rapport, et non pas à une décomposition de rapport dans le commun? Parce qu'après tout, on pourrait très bien imaginer que des différences entre elles soient incompatibles. Des différences entre elles se déconstruisent, s'annulent, s'effacent, s'excluent. Pour produire du commun, les différences doivent se composer entre elles, elles ne doivent pas se décomposer, ce qui signifie qu'on renonce, par exemple, à renoncer en termes, et c'est probablement la première condition, c'est pas la seule, mais c'est la première, qu'on renonce à raisonner en termes d'intérêt privé, et que pourtant on ne renonce pas à raisonner en termes de permanence des différences. Comment faire en sorte que les différences cessent de mettre en avant un intérêt qui a été défini par la théorie politique comme un intérêt propriétaire, et qu'on qualifie cet intérêt autrement que comme un intérêt propriétaire, pour qu'il puisse coexister avec non pas seulement coexister avec, mais s'agencer sur ou avec, se construire avec l'intérêt de l'autre. La question, et la question, moi j'ai pas de réponse, mais je la pose, c'est de comprendre si le décrochage de la notion d'intérêt du registre du privé, ou le décrochage de la notion d'intérêt du problème du champ de réflexion dessiné par le couple individualisme propriétaire ou propriété étatique, nous assure une redéfinition de l'intérêt des différences de manière suffisante. Qu'est-ce qu'un intérêt non propriétaire, en somme, pour le dire de manière plus simple? Deuxième problème, chaque singularité, chaque différence, vous, moi, n'est pas une chose, n'est pas une identité, n'est pas un objet, parce qu'elle est dynamique, mais pas seulement. Chaque différence, vous, moi, chaque singularité, est en réalité composée d'une infinité de différences. Et là aussi, le cas bolivien m'a beaucoup fait réfléchir. Et en 2007, si mes souvenirs sont bons, sur l'invitation de Franck, on avait été un certain nombre à se rendre en Bolivie et à parler avec des gens qui, à l'époque, étaient essentiellement, pas tous, mais ceux qu'on avait vus surtout, des membres, des députés constituants, des membres de l'Assemblée constituante bolivienne. Ce qui était intéressant, c'était de suivre un processus constituant en temps réel. Moi, je me souviens avoir fait des réunions assez longues et très complexes avec des femmes constituantes boliviennes. Et ce qui revenait en permanence de leur part, c'était « Mais moi, je suis quoi ?» Et c'était pas du tout une question métaphysique. Hein. C'était simplement, dans certaines réunions ou commission de la constituante, je suis là pour représenter les femmes dans un système qui, quoi qu'en dise le discours de façade sur l'indigénisme, est extrêmement ou fortement patriarcal et où le rôle des femmes est assez fortement marqué. Et en même temps, les mêmes femmes s'étaient construites politiquement comme des syndicalistes, et le poids de l'expérience syndicale, en particulier dans les mines, était extrêmement fort. Et en même temps, la dichotomie entre urbaine, dans les villes, et habitante des campagnes était extrêmement forte, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, mais ça vaut pour d'autres pays encore. Et puis, la plupart étaient des femmes indigènes, et il est évident que indigènes ou blancs comptaient aussi. Et la demande, quand ces femmes disaient « Mais moi, je suis quoi ?» au moment d'être reconnues comme puissance constituante, puisque c'est le lieu de l'Assemblée constituante, c'était « Quelle est la hiérarchie des différences ?» Je parle comme femme, comme indigène, comme syndiquée, comme paysanne, je parle comme quoi? Et elles étaient tout ça à la fois. Alors, quand je dis « compossibilité des différences, abandon de l'intérêt privé », le deuxième étage de la fusée problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces différences qui composent chacun d'entre nous? Avant de penser que la multitude est une composition des différences, il faut penser que chaque différence est elle-même une composition de différences. Vous êtes tous un ensemble infini de différences. Vous êtes tous de l'intérieur même de vous-même une multitude. Et la condition de possibilité de la multitude à l'extérieur de vous, c'est-à-dire du commun, elle est possible, elle est rendue possible par la reconnaissance de ces différences qui vous composent. Parce que la reconnaissance de ces différences qui vous composent, elle vous oblige à penser une chose qui est encore plus évidente et en même temps qui est politiquement difficile, et qui est la nécessaire non-hiérarchisation des différences. Construire du commun, c'est refuser de hiérarchiser les différences qui composent chacune des singularités et la composition de ces singularités entre elles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait de ces différences? Ben, on les agence. Et les agencer, c'est pas un mot de philosophe. Les agencer, ça veut dire proposer des configurations qui lient ensemble ces différences, là encore, en fonction de l'état, des rapports de force, des lignes de fuite, des possibilités d'antagonisme, des rapports de pouvoir. C'est-à-dire essentiellement une vision stratégique de la proposition dans le champ du politique de ces différences. Alors, c'est ce que vous faites chacun d'entre vous et c'est ce que nous faisons chacun d'entre nous selon les contextes. Nous mettons en avant telle ou telle détermination parce que aucune contradiction ne dit la vérité de ce que vous êtes. contradiction au sens politique. Aucune contradiction n'est supérieure à une autre. Aucune contradiction n'est politique par définition, et les autres sont plutôt de l'ordre de la subjectivité, non importante pour le politique, en tout, traditionnellement non considérée comme importante pour le politique. Ce qui implique donc que pour rendre compossibles les différences au sein du commun et faire que ces différences produisent réellement le commun, il faut se demander quel aspect, quelle facette, quel visage de la différence on met en jeu provisoirement à un moment donné pour produire. Et ça, ça veut dire une chose, c'est qu'en permanence, le regard sur soi et sur ce que l'on fait ensemble est celui de l'enquête. Plus exactement, il est celui de l'enquête et il est celui du diagnostic. Alors, on l'a vu, et sur ça je vais passer la parole à Franck, on l'a vu très clairement, par exemple, dans les manifestations récentes. C'est quoi le sujet qui descend dans la rue dans les manifestations récentes en septembre-octobre? C'est qui, c'est quoi? Voilà. Si vous posez la question aux gens dans la rue, vous allez avoir des étudiants, des chercheurs, des précaires, des retraités, des chômeurs, des sans-papiers. Et cette composition de différences qui nous semblait si exotique, moi la première en tout cas, vous peut-être pas, il y a 15 ans, elle l'est de moins en moins, parce qu'on s'est habitué. Et en même temps, qu'est-ce qui tient ensemble ces différences-là? Ce qui tient ensemble ces différences-là, et qui leur permet paradoxalement de produire ensemble quelque chose qui excède ce que chacun d'entre eux est, et qui en même temps rend puissant chacun d'entre eux de manière différente, ce qui les tient ensemble, c'est pas quelque chose, ou plus exactement, c'est quelque chose qui change en fonction des contextes, parce que les rapports de force évoluent. Donc c'est pas la vérité de l'état du sujet politique en 2010, c'est la vérité de l'état du sujet politique à un jour donné, en fonction d'un contexte donné de rapport de force. Alors là aussi, comment est-ce qu'on fait pour organiser une pensée politique? Premier point. Et comment est-ce qu'on fait pour organiser une subjectivité politique? Deuxième point. Et comment est-ce qu'on fait pour organiser des principes de décision politique? Troisième point. Si on assume cette mobilité stratégique permanente des formes du commun.